Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
Vous écoutez
Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Vincent, il y a pas mal d'équipes sportives là, qui ont été pris avec de la COVID. Et maintenant, c'est le cas de l'équipe de basketball de Toronto, les Raptors.
Oui, et par son entraîneur-chef, en fait, l'entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, et 5 autres membres du personnel. Donc, on parle pas des joueurs, mais vraiment du personnel. Personnel d'instructeurs ne pourront se présenter au match qui est prévu aujourd'hui contre les Rockets de Houston. Ils sont soumis au protocole de la NBA en matière de COVID-19. Donc, on n'a pas beaucoup de détails. Là. Quand on est dans le protocole, ça peut être de différentes façons. Ils pourront travailler à distance, c'est ce qu'on mentionne, et leur retour pour l'instant est à une date indéterminée. On aura un point de presse avec les médias un petit peu plus tard ce soir, alors on en saura davantage. Il y a eu quand même quelques problèmes de
mais ils vont COVID. Pouvoir intervenir à distance?
Ben, c'est ce que je comprends.
Je suis tellement d'accord. C'est un mystère. J'ai jamais posé la question à un super spécialiste du football ou de la NFL. Ça a toujours été un mystère pour moi. Il y a eu quelques cas d'entraîneurs qui ont pas pu partir. Puis on disait qu'ils pouvaient pas communiquer. Peut-être parce qu'ils avaient accès à d'autres informations. C'est probablement ça, là, parce qu'ils avaient accès à d'autres informations ou qu'ils étaient en dehors du stade. Là. Parce qu'il me semble qu'on aurait pu les mettre dans un cubicule à quelque part ou dans un lieu fermé.
À la limite, tu parles à quelqu'un.
Parce qu'il n'est pas suspendu. Si le coach est suspendu parce que, je sais pas, moi, il a frappé un arbitre, là, je comprends qu'on veut pas qu'il, on veut qu'il soit puni. Bon. Mais là, c'est juste une malchance de COVID. Là, tu comprends en quoi il peut pas être là physiquement parce que tu veux pas qu'il amène de la contamination. Mais
vous pouvez avoir un adjoint avec une oreillette puis
puis faire ses calls puis dire là changer de stratégie, faites ceci, faites cela, faire des observations. En tout cas,
surtout que pour là le coach ça lui donnerait une perspective intéressante parce que lui il voit tous les angles de la télévision, ce que lui a pas d'habitude. Peut-être que ça peut alors c'est la première fois que ça touche vraiment des entraîneurs du côté de la NBA. Alors faut-il que les Raptors arrivent de 2 défaites consécutives, alors à suivre.
Mystérieuse explosion de maison à Moran Heights dans les Laurentides. Je dis mystérieuse parce que ça a pété pas à peu près. Ça se demandait s'il y avait pas dans la maison des équipements un peu hors normes là par rapport à ce qu'on a habituellement dans le résidentiel, disons là.
Ouais, parce qu'on parle d'une maison complètement soufflée là. Vous allez voir les images dans les bulletins de nouvelles ce soir, c'est impressionnant, une résidence complètement rasée par une explosion suivie d'un incendie. Ça s'est produit cet après-midi dans les Laurentides. Et j'attendais, on va finir par avoir certains détails, on en a très peu. On sait pas ce qui a provoqué la déflagration, c'est sur la rue des Trois-Pierres. Pour ceux qui connaissent le secteur à Moran Heights,
il peut y avoir de gens à l'intérieur?
On n'a pas de confirmation, mais semble que non. Du moins, selon certaines informations, mais on n'a pas cette confirmation des policiers. On sait que plusieurs services d'urgence sont sur place. D'ailleurs, notre collègue Yves Poirier s'est présenté sur place. On dit que les voisins ont entendu une déflagration, une impressionnante déflagration. Ils ont eu même la peur de leur vie, c'est ce que disait José Forgette.
Généralement, dans un bon reportage sur une affaire comme ça, les voisins disent qu'ils ont entendu un gros boom.
Oui. Ça, des fois, les voisins décrivent le bruit, mais c'est pas toujours tu te souviens de certains exemples comme ça. Gilbert Laurentiel et Joseph Forgette donc ont entendu un bruit fort vers 11h parlant d'un bruit là catastrophique, une sensation, on pensait qu'il y avait un avion qui tombait sur le toit.
Qu'est-ce que tu as dans une maison qui peut exploser? C'est sûr qu'il y a une des hypothèses, c'est que tu as du gaz naturel qui fuit là, puis qui remplit la pièce, qui occupe tout l'espace, puis que là quelque chose l'allume. Parce que sinon, une bonbonne de propane, je dis pas que ça fait pas une grosse explosion, mais je veux dire, ça détruit pas la maison, là.
Non, effectivement, ça peut être
magasiner un coin de la maison, ça va briser, oui, mais...
Mais oui, on peut penser à la maison remplie de gaz, pas nécessairement impossible.
Ou des équipements hasardeux.
C'est possible aussi. Donc, le couple ont dit qu'ils étaient dans une pièce tout près de la maison de leur voisin et ils ont entendu l'explosion, appelé le 911 tout de suite. Alors, on en sait très peu encore. Si j'ai plus de détails, je vous en fais part, c'est sûr.
La CDC qui est inquiète aux États-Unis de l'arrêt de la baisse de cas, tout ça. Parce qu'aux États-Unis, l'autre nouvelle du jour, nous, c'est AstraZeneca qui a été approuvée aujourd'hui. Aux États-Unis, ce sera plutôt le Johnson, là.
Oui, tout à fait. Il y a quand même plusieurs angles aujourd'hui à la COVID-19 aux États-Unis. Le côté plus négatif, c'est ça. C'est que la courbe là, qui descendait de façon stable, à peu près comme nous, là, depuis la mi-janvier, cette baisse-là semble s'être arrêtée.
Mais il y a encore des morts. Je checkais ça tantôt, Vincent. Tu sais, on dit aux États-Unis, c'est moins pire. Hier et avant hier, deux journées, les deux, Il y a eu chaque journée 2500 morts.
Oui,
5000 morts en deux jours.
Oui, on est au-dessus de 2000 morts. Nous, on était, tu vois, aujourd'hui, 11 décès. Là. Je comprends qu'on n'a pas la même population,
mais
on n'arrive pas, pas à 2000. Tu as tout à fait raison. Le bilan est encore très lourd.
On dit au Québec, au Canada, aux États-Unis, je pense qu'il faut que tu multiplies par 35. Tu sais, mettons, à la limite, il y aurait eu 350 morts. Là. 360. Mais 380, mais... 2500 morts hier, 2500 morts avant hier, ils ont ajouté 5000 décès en deux jours. Là.
C'est énorme. Mais je me souviens, Mario, quand on a passé le cap du 1000 morts par jour, c'était fou là aux États-Unis. Et là, on voit que c'est une bonne nouvelle à chaque jour. C'est
juste 2500 parce qu'il y en avait 3000 quelque cent il y a deux mois, mais je comprends.
Faut se rappeler qu'à certains endroits, entre autres en Californie, les hôpitaux étaient juste bondés. Là, ça se libère, mais dans certains cas, les lits se libèrent parce que la personne décède. Et heureusement, elle n'est pas remplacée. Alors ça, c'était des bonnes nouvelles, ça baissait. Par contre, la CDC dit là, on vient d'atteindre un fond. Là. Et là, est-ce qu'on va repartir en hausse? De sorte qu'on demande aux Américains d'être très vigilants, même si on a dépassé les 50 millions de personnes vaccinées et que ça vaccine beaucoup. On souhaite aussi augmenter le nombre de tests pour les variants parce qu'on n'a pas un réel portrait des variants en ce moment aux États-Unis. Par contre, dans le positif, j'entendais hier le docteur Fauci qui disait à CNN, on lui a posé la question, deux personnes vaccinées là ensemble, est-ce qu'ils peuvent là se sauter dans les bras? Et Dr Fauci disait, on n'a pas encore de chiffres là, qui nous le prouvent, mais le gros bon sens nous dit que oui. Là. Il dit, moi, si je suis vacciné, que ma fille est vaccinée, je vais probablement lui faire un long câlin que j'ai pas fait depuis le début de la pandémie. Là. Alors ça, l'idée qu'on va reprendre une vie normale une fois vacciné, ben Dr Fauci y croit. Là. Effectivement, certains chiffres semblent prouver que la transmission également fortement diminuer avec le vaccin. Alors c'est des bonnes nouvelles. Et parlant de vaccin, aux États-Unis, tu le disais, Johnson & Johnson. Aujourd'hui, chez nous, c'était AstraZeneca qui reste à approuver aux États-Unis, mais aujourd'hui, c'était Johnson & Johnson au programme pour le comité d'experts américains qui se penche là-dessus. Plus tôt cette semaine, tu te souviens, on a donné des chiffres de la FDA disant, oui, le vaccin est efficace, il est sécuritaire, on a revisé toutes les données des différentes phases et on arrive à la conclusion que c'est un bon vaccin. Et là, aujourd'hui, ce comité de une vingtaine de personnes, des scientifiques indépendants, analysait tout ça pour arriver à la conclusion si, oui, on approuve aux États-Unis. Et ça se fait, ce qui est quand même inhabituel, c'est retransmis en direct sur Internet parce qu'on veut s'assurer que les anti-vaccins voient toutes les étapes et disent pas ça s'est fait à porte close. Tout est ouvert, les chiffres des études, tout est disponible et tout le débat,
mais
les discussions
les
sont...
Les anti-vaccins, là, ben, je crois qu'il y a des anti-vaccins militants là, qui en font une cause de convaincre. Mais mettons les gens qui ont été trompés par ça, là, qui ont écouté ça puis qui se sont fait embarquer. Je veux dire, au départ, là, toutes les thèses qu'il allait avoir une puce, c'était tout dans l'idée qu'il allait avoir un seul vaccin. Là, je pense qu'il y a 9 vaccins de toutes sortes de compagnies différentes. T'sais, il n'y a aucune des thèses initiales. T'sais, les anti-vaccins avaient inventé des téléromans, là, des histoires.
Oui.
Mais il y en a aucune qui est compatible avec la réalité.
Il n'y a pas un vaccin Bill Gates puis tout le monde a ça dans le monde là.
Il y a une compagnie suédoise et britannique, il y a des vaccins, il y a même un vaccin chinois à la limite là, il y a un vaccin, on a failli l'avoir au Canada,
russe,
un vaccin chinois, il y a un vaccin
russe développé en Inde là, version de l'AstraZeneca qu'on va recevoir au Canada.
Exactement. Donc tu sais, il y a aucune, tout ça dans des petites fioles, des petites bouteilles où il y a pas de puce, là, tu vas chercher six... Attends, il peut pas avoir de puce dans un vaccin, c'est une connerie en soi, j'en viens pas que j'en suis à comment.
Oui, mais des fois
c'est ça que j'ai l'impression d'être cave de commenter ça, mais en même temps, c'est qu'il y a des gens qui ont lu ça,
question de santé,
il y a des gens qui ont lu ça puis qui y ont cru, puis à cause de ça, vont nuire à la fin de la pandémie, là, tu sais. Mais enfin, c'est... Je me suis réconcilié parce que, comme je voulais commenter aujourd'hui le passeport vaccin, je suis retourné parce que je me suis souvenu que l'État de New York avait interdit carrément la fréquentation scolaire aux enfants pas vaccinés, puis c'est encore ça aujourd'hui. Les enfants vaccinés peuvent pas aller à l'école. C'est dur, comme ils n'ont pas eu le choix de faire ça, mais c'est dur. Pas le droit d'aller à l'école dans l'État de New York.
On a vu des éclosions de maladies qui avaient disparu.
C'est de la rougeole. Il va recommencer à avoir de la rougeole, absolument. Et je réalisais tous les efforts qui ont été faits parce qu'à ce moment-là, l'État de New York, ça avait été beaucoup moins médiatisé à l'époque. Ce qui était médiatisé, c'était la grosse décision, tu pourrais plus aller à l'école. Mais parallèlement à ça, là, ils avaient mis vraiment des équipes pour convaincre les gens. Et là, théoriquement, là, c'est des gens qui étaient convaincus d'un point de vue religieux. Là, les Juifs hassidiques pour beaucoup, il y avait d'autres sectes aussi, des groupes qui étaient très réticents. Et on est allé rencontrer les leaders, on leur a expliqué. Et finalement, il y a eu approbation. Puis là, une fois que les leaders ont dit oui, tout le monde là, on fait vacciner leur enfant. C'est relativement bien passé. Puis même ici, les toches, à la suite de ça, parce que c'est des communautés qui sont un peu... cousines, tu sais, qui se connaissent puis qui travaillent ensemble. Et les Toches de Boisbriand, il y avait eu des centaines de vaccinations ici au Québec qui n'avaient jamais été faites et qui se sont faites à la suite de ça. Alors, je me disais probablement que peut-être je suis pas assez patient. Il faut vraiment prendre le temps, s'arrêter, expliquer, convaincre, fournir toute l'information, etc. Mais là, dans ce cas-ci, l'autre bout, c'est le passeport vaccin. Qui, lui, tu convaincras pas des anti-vaccins, mais il y a un bout qu'on oublie là, dans les sondages sur les vaccins, qu'on les appellerait les un petit peu les paresseux du vaccin, c'est-à-dire, tu sais, la loi de l'inertie, là, c'est-à-dire qu'ils sont pas contre le vaccin, mais t'as toujours l'espoir de dire, ben, moi, ça me tente pas, ça pique.
On dit, moi, j'ai pas peur, je serais pas malade.
Non, puis ça pique un peu, ça a piqué dans le bras, l'aiguille, ça fait un petit peu peur, je suis pas confortable. Fait que tu te dis, si je peux me l'éviter, là, tout le monde autour de moi va se faire vacciner. À cause, quand 90%, 95%,
ouais. Moi, je tiens sa mort.
La COVID, tu vois, moi, je tiens sa mort. La COVID va disparaître. Puis moi, j'aurais pas fait que...
T'es dans un rabascan, mais tu rames pas. Tu fais juste suivre la petite rame. Puis si on avance pareil, personne
ne va s'en rendre compte. T'es dans une chorale, tu chantes pas, là.
C'est ça.
Mais là, si t'as le passeport vaccin, c'est sûr que sur ces gens-là, tu mets une pression pour dire non, là. Si tu vas aller au restaurant, faut que t'ailles la preuve. Faut que tu te fasses vacciner.
Faut qu'il y a une bonne gang qui là-dessus, ça donne le petit coup de pied.
Le petit coup de pied, c'est ça. Des gens qui sont pas contre, mais qui. Et la loi de l'inertie, on le sait, dans la vie, c'est une des lois les plus fortes de la physique et de l'humanité.
Pour vraiment un anti-vaccin qui pense qu'il y a une puce, ben, tu dis, écoute, si tu penses qu'il y a des puces, t'es peut-être mieux aussi de pas sortir au cinéma parce que tu vas te faire enlever par les extraterrestres, là.
Oui, rendu bon. Là, effectivement. Hey, c'est un dossier qu'on avait suivi beaucoup, entre autres avec notre collègue Normand Lester, le meurtre du journaliste, Jamal Khashoggi. Et là, les services de renseignements américains ont révélé le résultat complet de ce qu'ils ont obtenu de leur enquête et c'est pas beau pour le prince saoudien.
Non, et vraiment, c'est une nouvelle, je voyais sur les réseaux américains, c'est très couvert aujourd'hui cette nouvelle-là. On se souvient de Jamal Khashoggi, ce journaliste qui avait été assassiné le 2 octobre 2018 dans le consulat de son pays à Istanbul, lui qui était un chroniqueur du Washington Post. Et on se souvient, on n'a jamais retrouvé son corps. On pense qu'il avait été tué, démembré par une espèce d'escouade d'élite.
Oui, mais Norman Lester avait même l'hypothèse, il existe une sorte d'acide qui peut dissoudre les tissus humains, un corps.
On l'aurait peut-être tout simplement renvoyé dans les égouts parce qu'on n'a trouvé aucune trace de Khashoggi. Évidemment, plusieurs pointaient du doigt Mohamed Ben Salman qui avait toutes les raisons parce qu'étant donné que Khashoggi...
Il y a même cette hypothèse que c'était diffusé, là, que l'assassinat était diffusé par cellulaire pour prouver au prince qui, lui, le regardait live. Là.
De sorte qu'on avait beaucoup pointé du doigt, mais sans, au niveau des États-Unis, on avait été prudent à l'accuser, surtout que Donald Trump avait pas voulu embarquer là-dedans. D'ailleurs, Mike Pompeo avait dit qu'il y avait aucune, dans le renseignement américain, là, aucune preuve qui disait que c'était Mohamed Ben Salman. C'était visiblement faux parce que Donald Trump avait refusé qu'on rende public un document secret du renseignement américain qui vient d'être déclassifié à la demande de Joe Biden. Et ce qu'on retrouve dans ce document, c'est vraiment un lien direct entre le meurtre et le prince héritier d'Arabie Saoudite. Ce qu'on dit, là, je te lis un extrait, nous sommes parvenus à la conclusion que Mohamed Ben Salman a validé une opération à Istanbul en Turquie pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le prince héritier considérait Khashoggi comme une menace pour le royaume et plus largement soutenait le recours à des mesures violentes si nécessaire pour le faire taire. La Maison-Blanche, donc, qui annonce des mesures qui allaient être dévoilées là, bientôt sur, contre l'Arabie Saoudite.
J'ai vu le secrétaire aux Affaires étrangères dire quand même que ça restait un pays allié.
Tout à fait. Mais d'ailleurs, Joe Biden l'a dit parce que les deux se sont parlé hier, Joe Biden et Mohamed Ben Salman. Oui, Joe Biden a amené le sujet là des droits humains et compagnie, mais en répétant...
Comment tu dis ça à quelqu'un? Hey, nous, là... T'as assassiné un journaliste, vous avez fait fondre son corps dans l'acide. C'est pas beau, ça.
Faudrait éviter de faire ça. T'as tout à fait raison.
Comment t'abordes une telle chose,
hein? Oui, tu as tout à fait raison. Et par contre, il a répété, Joe Biden, qu'on allait aider l'Arabie Saoudite à défendre son territoire contre les groupes pro-Iran, parce que ça, c'est le vrai ennemi, l'Iran,
ben oui,
pour les
ça.
États-Unis. Mais c'est un ami gênant, l'Arabie Saoudite. Alors, travailler avec ces deux-là, c'est très compliqué. C'est-à-dire quand même qu'aujourd'hui, il y a eu décision là, de restriction de visa pour 76 Saoudiens qu'on associe à des menaces, à des attaques contre des dissidents ou des journalistes à l'étranger. Mais c'est une patate chaude quand même, l'Arabie Saoudite. Mais Joe Biden, visiblement, n'est pas inactif parce que ça, c'est lui qui l'a approuvé, sachant que ça allait quand même pas aider les relations avec l'Arabie Saoudite. Il y a eu des frappes.
Probablement que le fait de le révéler, c'est déjà lui, c'est sa façon d'avertir le régime saoudien. J'en ai marre, là, tu sais.
C'est ce que je comprends aussi. Et aussi pour montrer que Donald Trump et Mike Pompeo ne disaient pas la vérité, là, auparavant, qui n'est pas nécessairement surprenant. Mais,
je veux dire qu'il disait peut-être pas la vérité non plus, qu'il disait qu'il avait gagné l'élection, qu'il avait eu.
Sûr que là-dessus, la feuille n'est pas blanche.
Il n'est pas vierge, ouais.
Tout à fait.
Puisqu'on parle des États-Unis, Donald Trump, dimanche, il sera conférencier dans une grande conférence des conservateurs américains en Floride, qui est déjà en cours, là.
Oui, depuis aujourd'hui, ça commençait le CPAC, le Conservative Political Action Conference, un grand événement de la droite conservatrice américaine. Donc, on est là. C'est souvent, pour les républicains, là, c'est vraiment le côté beaucoup plus à droite. Ça fait pas l'unanimité, même chez les républicains, le CPAC. Et là, donc, c'est commencé. Il faut dire, Mario, que vous voyez des images, là. C'est la Trump manie encore, là. Partout, on vend des
croissants Trump. Il y avait un Trump en or.
Il y a une espèce de grande statue de Trump en or qui se promène. Les gens applaudissent. On est encore, là, ça montre à quel point, que les républicains le veuillent ou non, Donald Trump est au cœur de toutes les discussions. Et il va parler. Donc, il a un discours de prévu dimanche. Et ça va être à surveiller, là. Là, on a Trump, c'est son premier discours depuis qu'il n'est plus président.
Le spin, 20 janvier. Le spin, il y a une semaine, il est moins fort aujourd'hui. Mais le spin, il y a une semaine, c'était qu'elle a annoncé carrément son retour pour 2024. Là, ça s'est comme calmé, qu'il pourrait simplement prouver qu'il est encore un incontournable.
Ou le sous-entendre, effectivement. Mais on s'entend, Trump, pas de télésouffleur, là, qui n'est plus président, qui est enragé, là, visiblement. Écoute, tout ce qu'il peut dire dimanche...
Je pense qu'il pourrait être moins modéré, moins raisonnable que d'habitude.
Ben écoute, ça, à mon avis, ça va être quelque chose à voir. Rappelant que Mitch McConnell, le leader du républicain au Sénat, a dit qu'il allait appuyer Trump absolument s'il se présentait en 2024, alors que les deux s'envoient
alors
promener...
Alors qu'il a tenu entièrement responsable...
Du siège du Capitole.
Il voterait pour lui comme président. Mais ça, sérieusement, McConnell est en train de perdre toute sa crédibilité dans tous les camps. Là.
À quel point tu peux faire des volte-face, être la girouette, là, vraiment, c'est, on dépasse les limites. Et petite parenthèse, juste pour vous montrer un peu, aujourd'hui, là, j'entendais à la conférence, les responsables de la conférence ont dû monter sur la scène pour demander aux gens de porter leur masque. Et ils se sont fait huer. Parce qu'ils expliquaient que, nous, on est dans le parti, là, on veut respecter la loi et l'ordre. On respecte aussi la propriété privée. Là, on est dans un hôtel. L'hôtel a des règlements. On n'est pas chez nous. L'hôtel dit qu'on doit porter le masque. Alors, je vous demanderais de porter le masque. Puis là, ça gueule. Puis c'est quand même ça, ce qui se passe pour certains Américains. Alors, CPAC, ça va durer jusqu'à dimanche.
De quoi aura l'air notre vie en 2030?
Ouais, un petit mot là-dessus. Une compagnie dans le domaine du numérique là, qui s'appelle Dentsu publie un rapport. Ils ont analysé leur vision pour jusqu'à 2030, en donnant entre autres des dates là, à ce qui s'en vient.
De l'évolution technologique.
Et je vais vous donner quelques dates sur ce qu'eux prévoient qu'on verra arriver dans les prochaines années, du plus près, là, 2021 jusqu'à 2030. 2021... Les exosquelettes, entre autres pour les personnes qui ont des problèmes, qui sont en fauteuil roulant, par exemple. Alors, l'arrivée des exosquelettes, là, ce serait pour d'ici la fin de l'année.
Les exosquelettes viennent perdre tout le monde. Donc, des os de remplacement, ni plus ni moins.
Ben, en fait, c'est un squelette mécanique à l'extérieur du corps, là. Donc, tu deviens comme un peu des jambes robotiques, mais qui longent tes jambes. Alors, c'est un squelette extérieur qui te permettrait de marcher, par exemple, au lieu d'avoir une chaise roulante. Il y a déjà plusieurs compagnies qui travaillent là-dessus. C'est assez évolué.
C'est 2021.
2021. Également, les gouvernements qui s'attaquent aux médias sociaux contre la désinformation. Puis on le voit, on est déjà dedans. Ça, c'est assez quand même peut-être sécuritaire. 2022. Plusieurs compagnies dans le domaine de la technologie passeraient à des semaines de 4 jours. On est sûr qu'eux voient que c'est une future tendance. On tomberait dans les compagnies, les GAFA et autres, là, à 4 jours semaine.
4 jours, par exemple, travailler 4 jours, 9 heures, mais avoir une plus longue fin de semaine.
Exact, plus de 3 jours. On voit ça venir comme étant une tendance pour 2022.
Je crois ça.
Ouais, ben écoute, on verra. Également, 2022, l'Europe annonce une taxe sur la viande.
Non. Okay.
Ça, c'est pas impossible non plus. Je passe à 2024, où là, on commence à devenir un peu plus futuriste. Elon Musk, le Neuralink, qui est des travaux qui se font d'implants dans le cerveau, là, dans le but de nous mettre des capacités informatique ou du moins numérique au cerveau vont commencer à...
Mais pour commander des appareils, par exemple?
Non, ça, c'est pour Pourquoi? Le futur. Ce qu'on veut, c'est entre autres aider des personnes avec des problèmes, par exemple, ou des paralysies, qu'on puisse, avec des implants dans le cerveau...
Pour améliorer, compenser des problèmes de la personne. Là.
Exact. Et plusieurs années plus tard, là, on pourrait augmenter nos capacités, alors augmenter sa mémoire ou différentes facultés de vision avec des implants comme ça dans le cerveau. Ça commencera en 2024. Bon, j'en saute quelques-uns. De 2025, ça, c'est un peu spécial. Extinction Rébellion deviendrait un parti politique transnational, donc un peu partout dans le monde.
J'ai des doutes.
T'as des doutes. Ensuite,
avec comme chef Greta Thunberg.
Ben, peut-être qu'il va avoir sa majorité rendue là. Également, l'utilisation massive de drogues de performance, comme on voit déjà chez les étudiants. 25% entre autres des étudiants américains utilisent différentes, comme l'Adderall, par exemple, pour se concentrer. On verra un fléau de ça, là, toutes sortes de drogues dans le but d'être plus concentré, apprendre davantage en 2026. L'alcool synthétique aussi pour 2026, donc il permettrait d'être sous sans aucun effet secondaire de poids ou autre. Là. Alors, l'alcool synthétique
OK.
J'achève 2027 des véhicules qui peuvent détecter eux-mêmes les pathogènes, alors être capable, si tu passes à travers une pandémie avec ta nouvelle Volvo, être capable de détecter le coronavirus dans le souterrain, par exemple. Alors, ces véhicules-là blindés aux problèmes du genre. Ensuite, il en reste deux. Le premier service de livraison par drone global, partout à travers le monde, 2028. Alors, tu peux commander de quoi, puis ça s'en vient de Chine
par
drone et ça atterrit chez vous. Et en 2029, le travail sur sur les gènes et l'ADN. Alors, tu pourrais, si t'as un problème génétique, corriger ton ADN directement dans le corps. Et en terminant, le travail, le télétravail, mais à l'extérieur dans différents pays, là, complètement ouvert, où tu peux travailler, toi, à Tokyo pour Cube Radio parce que t'animes ton émission de là-bas. 2030, on voit ça comme étant assez généralisé.
Merci, Vincent.